D'abord, quelques annonces. Attention pour ceux qui viennent à la messe tous les jours cette semaine, donc j'ai une retraite. Donc, messe à 7h30 tous les matins, sauf jeudi, pour l'enfant prodigue, la messe sera à 7h. J'ai encore des places pour la dernière retraite de l'année, retraite du 19 au 24 octobre. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, venez rapidement. J'ai aussi publié donc, sur le site internet. Le programme pour l'année 2021, pour être sûr que je puisse avoir le gîte où je prêche d'habitude à temps. Donc il y aura l'année prochaine, si Dieu veut, 5 retraites. Première pour la semaine sainte, du 29 mars au 4 avril, puis du 26 avril au 1er mai, 7 juin au 12 juin, 13 septembre au 18 septembre, 18 octobre au 23 octobre. Donc n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire, hein, j'ai déjà... J'ai 3 inscriptions de retraite pour la retraite de Semaine Sainte. Nous allons vous lire les textes de l'Épître et de l'Évangile d'aujourd'hui. Donc l'Épître, pour cette fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est la lecture du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, « Je ferai couler sur elle comme un fleuve de paix et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. » Vous serez nourri de lait, porté sur le sein, caressé sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolé dans Jérusalem. Vous le verrez, votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront vigueur comme l'herbe, et la main du Seigneur se fera connaître à ses serviteurs. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, qui selon vous est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, appelant un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez semblable à de petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Celui donc qui se sera fait petit comme ce petit enfant, c'est lui qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. Veuillez vous asseoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, comme vous le savez, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est la patronne secondaire de la France. Pourquoi nous la célébrons aujourd'hui de façon plus solennelle? Lorsque le pape Pie XI l'a canonisée, vous savez qu'il a dit, c'est certainement la plus grande sainte du XXe siècle, et a-t-il dit peut-être une des plus grandes saintes de toute l'histoire de l'Église. Cette petite jeune fille qui est morte à 24 ans, elle est morte en 1897, elle est 24 ou 25 ans quand elle est morte, qui s'est enfermée dans un couvent et qui est devenue patronne des missions. Bien des choses à dire là-dessus. Alors essayons d'analyser un peu les textes liturgiques d'aujourd'hui. D'abord dans l'évangile du 27e dimanche, il y a une phrase qui m'a beaucoup frappé. Conduisez-vous. Dit Saint Paul, qui dit Saint Matthieu, conduisez-vous d'une manière digne de la vocation à laquelle vous êtes appelés. Notons que Saint Matthieu ne parle pas au prêtre d'Éphèse, il parle aux fidèles d'Éphèse. Donc il parle d'une vocation à laquelle nous sommes tous appelés. C'est qu'il y a deux sortes de vocations. Qu'est-ce que ça veut dire vocation? Vocation, c'est un du mot vocare en latin. Vocare, c'est appeler. Donc la vocation, c'est un appel du monde. Il y a un appel général pour tous les hommes, puis il y a un appel plus particulier pour ceux qui l'appellent de façon toute spéciale. Donc, par exemple, notre Seigneur Jésus-Christ arrive au bureau de change de Saint Matthieu et lui dit, Matthieu, viens et suivez-moi. C'est un appel spécial. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ précipite Saint Paul de son cheval, alors qu'il est sur la route de Damas pour obtenir les papiers légaux pour arrêter tous les catholiques, qui le précipite au bas de son cheval, qui le rend aveugle, et qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?» C'est aussi un appel spécial. Parce qu'il appelle Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à 15 ans au Carmel, c'est encore des appels très spéciaux. Mais il y a un appel général pour chacun d'entre nous. Et il nous est dit que cet appel général, la volonté du bon Dieu, c'est quoi? Notre sanctification. Donc on est tous appelés à la sainteté. Alors attention, le degré de sainteté à laquelle le bon Dieu nous appelle n'est pas le même pour chacun d'entre nous, bien entendu. Bon Dieu tient compte des circonstances, il tient compte des grâces qu'il nous a données, qui sont différentes pour chaque personne, parce qu'il n'y a pas de personne identique, toutes les âmes, chaque âme est différente. Alors attention donc à comprendre cet appel à la sainteté. Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a que les curés qui doivent devenir des saints. Ça veut dire qu'il n'y a que les curés au ciel, ce n'est pas très amusant. Tout le monde est appelé à la sainteté. Tout le monde est appelé au ciel. Alors attention encore, quand on parle de sainteté, j'ai remarqué que les gens comprennent tout de travers. Dès qu'on parle de sainteté, les gens imaginent des pénitences épouvantables, extraordinaires. Ah, je deviens saint, ça veut dire qu'il faut que je mange un quart de pois chiche toutes les semaines et que je fasse des pénitences épouvantables à longueur de journée. Mais non, c'est pas ça du tout. Beaucoup de gens pensent aussi qu'être un saint, ça veut dire faire des miracles. C'est faux. C'est pas parce que quelqu'un fait des miracles qu'il est un saint. Notre Seigneur Jésus-Christ, par exemple, avait donné le don des miracles à tous ses apôtres, y compris à Judas. Donc Judas a dû faire des miracles, comme les autres apôtres. Bien qu'il n'y ait rien dans l'évangile sur les miracles de Judas, certainement que Judas a fait des miracles comme les autres apôtres, parce que c'était un apôtre à part entière, même s'il était infidèle. L'Église demande des miracles après la mort, pour que Dieu valide la canonisation d'un individu déterminé. Mais ce n'est pas en tant que tel, ce ne sont pas les miracles ou les pénitences qui font la sainteté. Vous avez des hindous qui font des pénitences extraordinaires, je peux dire pour autant qu'ils sont saints, ils appartiennent à une fausse religion. Donc qu'est-ce que c'est que la sainteté? La sainteté, c'est d'abord la sanctification par le devoir d'état de chaque jour. Jour après jour, pendant toute sa vie, jusqu'au jour de la mort. En faisant la volonté du bon Dieu, jour après jour, pour sa plus grande gloire, avec le sourire. Pas oublier la dernière condition, s'il vous plaît. Encore une fois, le bon Dieu ne demande pas des choses extraordinaires. Un saint, ce n'est pas quelqu'un extraordinaire. C'est quelqu'un qui fait tout simplement ce que le bon Dieu veut pour lui. C'est que l'Église enseigne qu'il y a deux sortes de volontés pour chacun d'entre nous. Il y a la volonté signifiée. La volonté signifiée, c'est la volonté qui est manifestée par les commandements de Dieu. Commandements de Dieu, les 10 commandements, la loi naturelle, c'est pour tout le monde, tous les hommes. Donc le bon Dieu indique par la loi naturelle qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas mentir, qu'il ne faut pas désirer la femme ou les choses de son prochain, etc. Ça, c'est la volonté manifestée pour tous les hommes. Puis il y a une volonté spéciale pour chaque personne. Qu'on appelle la volonté de bon plaisir, c'est celle qui est manifestée par les circonstances. Les circonstances qui manifestent que le bon Dieu permet que vous ayez, vous et moi, certaines croix particulières, certaines épreuves particulières. On ne va pas au ciel en carrosse, donc on ne va pas au ciel sur un tapis roulant, on va pas au ciel sans épreuve. Celui qui veut venir après moi, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, première chose à faire, qu'il se renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix. Donc on a tous des manifestations de la volonté du bon Dieu qui nous indique par les circonstances ce qu'il veut que nous fassions. Ça peut être une maladie, ça peut être une épreuve professionnelle, ça peut être une épreuve familiale, la perte d'un être cher ou des choses de ce genre. Le bon Dieu manifeste comme ça sa volonté par les circonstances. Eh bien, qu'est-ce que nous demande le bon Dieu? D'accepter cette volonté de bon plaisir, non seulement de remplir les commandements de Dieu, c'est obligatoire pour tout le monde, mais aussi d'accepter tous les épreuves par lesquelles il permet que nous passions. Rappelez-vous cette phrase de Sainte Thérèse d'Avila, cette fois-ci, que je cite souvent en sermon, qui disait au bon Dieu, mon Dieu, quand je vois la façon dont vous traitez vos amis, c'est pas étonnant que vous en ayez si peu. C'est tout à fait exact. C'est ça qu'il faut voir, comprendre que le bon Dieu me demande la sainteté personnelle, qui est différente, encore une fois, pour chaque personne, puisque nous célébrons aujourd'hui Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je voudrais vous rappeler cette très belle comparaison qu'elle utilise dans son manuscrit autobiographique que vous connaissez bien parce que j'ai souvent cité en sermon. Mais ça dit bien ce que ça veut dire. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus explique que chaque âme a une taille déterminée, qui est différente pour chaque âme. On voit très bien la création du bon Dieu, aucune égalité. Chaque âme est différente. L'égalité, c'est une invention révolutionnaire. L'égalité n'existe pas dans la nature. Et à chaque âme a une taille déterminée. Elle compare chaque âme à un verre. Les petits verres à liqueur dans lesquels on met quelques centilitres, et puis il y a un gros verre à bière qui peut contenir 1 demi-litre. Qu'est-ce que nous demande le bon Dieu? Qu'au jour de notre mort, notre verre soit plein. les grâces qu'il nous a données. Celui qui a un tout petit verre et de quelques centilitres, du moment que c'est plein, le bon Dieu est content. On a rempli notre devoir d'État. Mais celui qui a un verre qui est beaucoup plus grand, il doit aussi être plein. Il ne peut pas dire, ah ben le voisin, il a 3 centilitres dans son verre, moi j'ai 3 centilitres au fond de mon verre, donc ça suffit largement. Non, parce que le voisin a un petit verre, le bon Dieu est content, mais vous aviez un grand verre et vous n'avez que le fond du verre qui est plein. Le bon Dieu n'est pas content. Et vous allez payer les conséquences. Nous aurons payé les conséquences. Et ça, on le voit très bien dans la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et là, encore une fois, on voit des confusions invraisemblables sur cette vie. À tel point que il m'est souvent arrivé de déconseiller à certaines jeunes filles peut-être trop sensibles de lire le livre de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, son manuscrit autobiographique. Parce qu'elle comprenait de façon complètement déformer le message de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Quand on parle aux gens de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, les gens nous disent « Ah, Sainte Thérèse, c'est magnifique, c'est la petite voix de l'enfance, c'est tout beau, c'est tout gentil, c'est tout rose, c'est tout mignon. » Ils ne savent pas lire entre les lignes, ces gens-là. Quand on voit les difficultés incroyables qu'a eues Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, difficulté avec la mère supérieure au couvent, le fait qu'elle était aussi au couvent avec ses sœurs, auxquelles elle ne pouvait même pas parler alors qu'elle avait été très très proche de ses sœurs, c'était des croix épouvantables. Elle est morte à 24 ans de la tuberculose, elle a même dit à la fin de sa vie, le bon Dieu l'a permis, le bon Dieu l'a pas voulu. Donc encore une fois, on ne réalise pas que la sainteté personnelle, c'est d'abord l'acceptation des croix que le bon Dieu veut nous envoyer. Parfois, les gens me demandent, mais qu'est-ce que je dois faire en tant que catholique pour avoir une petite vie bien tranquille? Et je réponds, devenez protestant. Voilà la réponse. Devenez protestant, vous avez une petite vie bien tranquille. Mais la foi catholique, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que la première chose que le bon Dieu nous donne, c'est la foi. La foi par la croix. Tel point que je suis obligé maintenant de plus en plus de prévenir les adultes qui sont baptisés, quand ça m'arrive de baptiser un adulte. Je merci ça. Et c'est arrivé assez souvent, je suis obligé de les prévenir, attention, en devenant catholique, vous devenez un gibier de choix pour le démon. Donc le démon va faire des heures supplémentaires avec vous, ça c'est sûr et certain. Donc soyez pas surpris, c'est à partir du moment où vous devenez catholique, vous allez avoir beaucoup plus de croix qu'auparavant. Et comme il est important de comprendre ces choses, donc la vie catholique, c'est quoi? C'est porter sa croix à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. En regardant le calvaire et avec les yeux qui montent vers le ciel. Une deuxième chose qui est très importante dans la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, une vie contemplative par excellence, elle était carmélite, une des vies religieuses les plus contemplatives qu'on puisse trouver, eh bien c'est elle qui a été choisie par l'Église pour être patronne des missionnaires. Donc une grande contemplative qui devienne patronne peut-être des gens les plus actifs qu'il y a dans l'Église. Pour bien montrer quoi? Qu'est-ce que nous enseigne l'Église par ce fait? L'Église nous enseigne que plus nous avons une vie active, plus il faut contrebalancer l'action par la contemplation. Donc quelqu'un qui a une vie active, très active, a plus besoin encore de sa méditation quotidienne que quelqu'un qui a une vie contemplative. Et on voit très bien, les grands actifs qui ont été canonisés étaient des grands contemplatifs. On voit par exemple certainement peut-être les deux saints qui ont eu le plus d'axes, le plus d'influence en matière politique. Par exemple, Saint Bernard et Saint Benoît. On dit que c'est Saint Benoît qui est le fondateur de l'Europe. C'est un peu vrai, dans un certain sens. Saint Bernard a eu une influence considérable sur le plan politique aussi, par son influence sur les rois, sur les empereurs et même sur le pape, qui était un de ses anciens moines. Eh bien, Saint Bernard était un contemplatif. Saint Benoît était un grand contemplatif. Et donc, il ne faut pas se lancer. Si on se lance dans l'action sans la protection, en quelque sorte, la colonne vertébrale derrière pour soutenir l'action de la contemplation, on tombe dans le volontarisme, on tombe dans l'activisme. C'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est la catastrophe des années, même au début des années 50, puis fin des années 50, après la mort du pape Pie XII en 1958, c'était justement ça, le mépris de la vie contemplative. À tel point que le pape Léon XIII a dû condamner ceux qui, justement, poussaient beaucoup trop sur les vertus actives et qui méprisait les vertus passives. Il a dû donner un nom à cette hérésie, parce que c'est une hérésie, il a appelé ça l'américanisme, parce que c'est une tendance qui est très nette outre-Atlantique. Et donc il faut utiliser cette grande sainte qui est la patronne secondaire de la France, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour nous demander, pour lui, qu'elle obtienne pour nous d'abord la grâce d'aimer la croix, parce qu'on ne va pas au ciel sans croix, et deuxièmement pour nous faire comprendre l'importance de la contemplation si nous avons une vie active. Et malheureusement, dans le monde moderne, on est de plus en plus actif. Donc il faudrait qu'on soit de plus en plus contemplatif. Or, malheureusement, l'action du monde moderne, très souvent, même chez certains de nos fidèles, entraîne le fait qu'on est de moins en moins contemplatif. Donc on est de plus en plus actif, on a de moins en moins de contemplation. Donc on se déconnecte complètement entre Seigneur Jésus-Christ. Comme un enfant dans le sein de sa mère, si vous voulez, qui se sépare du cordon ombilical, il va mourir. Monseigneur Lefebvre avait une expression qu'il utilisait souvent, que j'aimais beaucoup, une image qu'il prenait. Il disait, un actif qui ne veut pas avoir la contrebalance de la contemplation, il dit, c'est comme un jardinier qui veut arroser son jardin, qui veut arroser la plus grande surface de jardin possible. Donc il tire sur son tuyau pour arroser le plus loin possible. Il tire tellement sur le tuyau que le tuyau comme finit par se détacher du robinet. Alors sinon, il n'y a plus d'eau du tout. Mais c'est exactement ce qui se passe. Et donc, il faut demander au bon Dieu l'amour de la contemplation. Rappelez-vous le Saint Curé d'Ars qui reçoit une fois un de ses confrères d'un village à côté. Il est complètement découragé parce qu'il y avait trop de travail. Et il disait, j'ai plus le temps de tout faire, trop de choses à faire, trop de malades à faire, trop de choses à faire dans ma vie sacerdotale, j'arrive plus à tout faire, qu'est-ce que je dois faire? Et Saint Curé d'Ars lui a demandé, mais est-ce que vous méditez tous les jours? Le curé lui a dit, oui, j'ai fait une heure de méditation tous les jours. Et Saint Curé d'Ars lui a répondu, faites-en deux et vous aurez le temps de tout faire. Faites-en deux et vous aurez le temps de tout faire. Un autre point qui est important, ça c'est dans l'évangile d'aujourd'hui, qui résume très bien tout ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer dans ce sermon. Donc qu'est-ce que nous dit Saint Matthieu dans l'évangile d'aujourd'hui? Celui qui veut se... la phrase exacte pour faire vous dire bêtises. Donc si vous ne vous convertissez pas et vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Conseil de Saint Matthieu. Si vous ne vous convertissez pas, oui, il insiste d'abord sur la conversion personnelle. Conversion, c'est quoi? Le regard tourné vers le bon Dieu pour se sanctifier. Conversion, c'est sanctification. Conversion et sanctification sont un peu deux synonymes. Donc, il faut d'abord se convertir pour se tourner vers le bon Dieu, tourner vers la croix, parce que la croix monte vers le ciel. La croix est la petite clé qu'on doit avoir dans la poche le jour de notre mort pour pouvoir ouvrir la porte du ciel. Donc, première étape, se convertir. Deuxième étape, devenir comme des petits-enfants, l'humilité. Troisième étape, vous obtiendrez le royaume des cieux, la fidélité. Donc on voit très bien, dans l'esprit de l'Église, il y a toute une série d'étapes à franchir. La première, la plus nécessaire pour la sanctification, c'est l'humilité. Celui qui pense qu'il est capable d'aller au ciel par ses propres forces, il se trompe complètement. Celui qui est debout, dit Saint Paul, qui prenne garde de ne pas tomber. Donc la première étape, c'est l'humilité personnelle. Deuxième étape, l'humilité va entraîner la vertu d'obéissance. Notre Seigneur Jésus-Christ a été obéissant à son Père, obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Donc l'humilité entraîne l'obéissance. Si l'obéissance est là, la foi va pouvoir s'exercer. La foi, c'est quoi? C'est l'obéissance à la loi du bon Dieu. C'est ça la foi, illuminée par la charité. Et donc c'est l'humilité, l'obéissance, la foi. Et si ma foi est une foi vivifiée par la charité, ce qu'on appelle une foi formée, à ce moment-là, elle entraînera la fidélité. Et celui qui est fidèle jusqu'à la fin, c'est celui qui peut sauver son âme. Vous voyez comme il faut comprendre toutes ces choses-là et ne pas chercher à utiliser nos propres forces. Malheur à celui qui veut essayer d'aller au ciel par ses propres forces. C'est toute l'église de Vatican II. L'église de Vatican II, c'est une église qui prétend envoyer les gens au ciel en demandant au ciel, aux membres de cette église de Vatican II, de s'appuyer sur eux-mêmes, puisqu'ils ont mis l'homme au centre de tout. Résultat des courses, tout le monde se damne. Au contraire, l'Église catholique, c'est une Église qui est théocentrique, centrée sur Dieu. Si vous ne devenez pas comme un petit enfant, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, vous ne posséderez pas le royaume des cieux. des cieux. Petit enfant, il a besoin de sa mère. Petit enfant, il ne peut rien faire par lui-même. Dès qu'il y a le moindre danger, il prend vite la main de sa mère parce qu'il sait qu'il ne peut rien faire par lui-même. C'est la même chose pour nous. Donc demandons, mes bien chers frères, demandons cette grâce, par toutes ces grâces, par l'intermédiaire de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Puisqu'elle est patronne de notre pays, Dieu sait si notre pays a besoin qu'elle est devenue une gigantesque poubelle, un cadavre en voie de décomposition, comme on dit. Notre pays, Dieu sait si notre pays a besoin de retourner vers le bon Dieu. Si notre pays est devenu une poubelle, c'est précisément parce que le pays s'est coupé de Dieu. C'est tout le travail de la Révolution. Ce qui s'est passé en 1789, la France s'est coupée de Dieu. Et on dit que lorsque le roi Louis XVI a été décapité, ce sont tous les chefs de famille qui ont été décapités. On peut dire aussi que lorsque le roi Louis XVI a été décapité, eh bien c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a été décapité. Puisque c'est Dieu derrière le roi qui a été haï par les révolutionnaires, par les républicains. C'est encore plus vrai aujourd'hui. Et résultat des courses, eh bien la France est devenue une poubelle, précisément parce qu'on ne veut plus du bon Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un de facultatif. Dieu est obligatoire. Ou je mets Dieu dans ma vie, ou je centre ma vie sur notre Seigneur Jésus-Christ, ou je mets Dieu dehors. Et si je mets Dieu dehors, c'est le démon qui va prendre la place. Dieu ne peut pas accepter qu'une âme adore deux dieux, un vrai Dieu et un faux Dieu. Et donc si j'adore le faux Dieu, qui est la révolution actuelle, qui est la république actuelle, dans son laïcisme, immédiatement le bon Dieu s'en va, prend la porte et s'en va. En lui disant, tu veux choisir la révolution, tu veux choisir la liberté, l'égalité, la fraternité, au lieu de la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, et bien débrouille-toi tout seul, il s'en va. Alors demandons, bien sûr, ces lumières dont nous avons besoin pour comprendre toutes ces choses-là, pas simplement à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais aussi à Notre-Dame. S'il y en a une qui a eu confiance en son divin Fils, s'il y en a une qui a compris que notre Seigneur Jésus-Christ, son divin Fils, était l'unique nécessaire, c'est bien elle. Donc il faut demander à la Très Sainte Vierge Marie qu'elle obtienne pour nous toutes ces grâces de lumière, ces grâces de force. Certainement, une des vertus dont nous avons le plus besoin, des dons dont nous avons le plus besoin aujourd'hui, c'est le don de force illuminé par le don de sagesse. Le don de sagesse pour savoir où sont les choses importantes et le don de force pour justement continuer à se battre. N'oublions pas que saint Thomas d'Aquin explique très bien que les dons de force, il y a deux choses dans la force. L'agrédit et le soustinéré, dit-il. L'agrédit, c'est la partie combative. Le soldat qui se bat pour prendre la place occupée par l'ennemi. On a mille ennemis dehors, ça c'est l'agrédi, la bataille. Et après, il y a le soustinéré. Une fois qu'on a pris la place, il faut la conserver. Donc il faut mettre des vigies sur les remparts pour être sûr que l'ennemi ne revient pas. Et saint Thomas explique que le soustinéré est bien plus difficile à garder que l'agrédi. C'est facile de se battre pour un coup, donner un coup de collier une fois pendant quelques minutes. Le bon Dieu nous demande jour après jour de nous sanctifier en portant la croix, dans l'humilité, dans l'obéissance, avec la foi, pour obtenir la vertu de fidélité. La vertu de fidélité, c'est quoi? C'est le paradis à la fin de nos jours. C'est ça qu'il faut demander. Donc nous demanderons toutes ces grâces par l'intermédiaire de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de Notre-Dame. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.